Franck Freitas, qui est à l'université Paris 8, qui est au laboratoire GTM CRISPA, et qui va intervenir sur les tourments de l'Atlantique noire, pardon, les héritages marxistes confrontés à l'American Dream.
Merci Nelly. Je me joins au lot de remerciements qui ont été exprimés depuis ce matin. Et avec une pensée spéciale à toi, Maxime, pour veiller à ce que les questions raciales soient toujours débattues dans le champ universitaire en France. On peut s'en accommoder, hélas. Mais voilà, merci. Comme l'a dit Nelly, le titre, c'est « Les tourments de l'Atlantique noire, les héritages marxistes confrontés à l'American Dream ». Pour une fois, je ne vais pas parler de Stuart Hall. Bon, à mon grand regret, je vais parler plutôt de Paul Gilroy. Lorsque Paul Gilroy a été invité à Paris pour la première fois, je pense, en 2006, pour présenter son ouvrage L'Atlantique noire, modernité et double conscience, le paradoxe est que l'auteur qui se tenait devant nous ne partageait déjà plus son enthousiasme pour les cultures populaires noires exprimées dans ce travail. Son ouvrage « Between Camps, Nations, Culture and the Allure of Race » sorti en an 2000, affichait une profonde désillusion et colère froide à l'égard d'une culture populaire, principalement africaine-américaine, qui n'exerçait plus son rôle cathartique. Né en 1956, Paul Gilroy a grandi dans le traumatisme du fascisme et d'une reconfiguration de la scène internationale, avec la guerre froide et son monde bipolaire, les mouvements anticoloniaux et antiracistes aux États-Unis et en Angleterre dans les années 1970-1980. Dans cette période de trouble, les cultures de l'Atlantique noire ont joué un rôle capital dans la projection d'un monde alternatif et libéré de la dimension mortifère de la modernité. La méfiance à l'égard de l'actuelle culture populaire noire, qu'il présente volontiers comme la bande sonore de la mondialisation néolibérale, doit être entendue à la lumière de cette période de grands bouleversements. Pour ma part, je suis né une vingtaine d'années plus tard, dans un contexte de fin de l'histoire qui annonçait en fait le règne du néolibéralisme à l'échelle planétaire. Je partais donc dans une direction contraire à celle de Gilroy. Je continuais certes de naviguer dans le même Atlantique, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire en commençant par l'actuelle position de cette culture, là où précisément la pensée du théoricien s'est butée. Là où Gilroy semble voir l'enterrement net de tous les rêves de liberté, s'y entend au contraire chez les protagonistes de cette culture une volonté d'émancipation. C'est autour de cette question et de la mésentente qu'elle suscite au sein de l'Atlantique noire que j'entends discuter. Dans ce temps qui m'est imparti, je reviendrai sur l'évolution de l'analyse de Gilroy sur la culture populaire, principalement portée sur l'art africain-américain, auquel je reproche qu'elle ne tient pas suffisamment compte de toute la complexité de la question de l'émancipation qui se pose au sein de la communauté africaine-américaine. Alors, la sortie de The Black Atlantic Modernity and Double Consciousness de Paul Gilroy, il y a 23 ans, 13 ans pour sa traduction française, a eu un impact majeur dans les débats, notamment sur les questions d'identité, les cultures populaires noires, la modernité et sa critique par la marge raciale. À titre de rappel, l'Atlantique noire est ce concept qui vise à aborder la question de la modernité en l'appréhendant par ses contre-modèles. Ces derniers renvoient à l'ensemble des masses qui n'ont pas eu droit de figurer dans l'histoire de la modernité, y compris dans ses examens critiques, quand bien même leur dispersion dramatique sur le territoire américain est le résultat direct de l'émergence et de l'installation de l'héritage des Lumières sur une échelle planétaire. Ce concept vise à mettre en lumière le patrimoine intellectuel, littéraire, artistique des rescapés et de leurs descendants, de la traversée de l'Atlantique en bâtonnets criés, qui ont formulé une pensée de la liberté, de la citoyenneté, de l'autonomie sociale et politique, qui renvoie le projet de la modernité à ses propres principes non tenus. Cet ouvrage a été généralement pris comme l'aboutissement d'une réflexion, alors que celle-ci se trouvait remise en question dans les travaux qui ont suivi. En effet, après son séjour universitaire aux États-Unis en an 2000, à l'université de Yale précisément, l'Atlantique noire d'hier est devenu plus sombre que bleu, pour reprendre le titre de son dernier ouvrage en date, Darker Than Blue on the Moral Economy of Black Atlantic Culture, sorti en 2010. dans lequel il prolongeait une thèse précédemment discutée dans Between Camps, Nations, Culture and the Allure of Race, comme j'ai dit plus tôt. Ceci me fait dire qu'il faut distinguer deux temps dans la pensée de l'Atlantique noire, dont la parution de Between Camps, Against Race, dans sa version états-unienne, inaugure le basculement. On peut effectivement y repérer un premier temps, celle de l'Atlantique noire, celle qui est contenue dans l'ouvrage L'Atlantique noire, et qui exprime un désenchantement de l'art africain-américain vis-à-vis de la modernité et leur aspiration à sa réalisation. Dans le second temps de cette pensée, que l'on retrouve dans les ouvrages Between Camps et Darker Than Blue, Gilroy développe un rejet de ce qui est devenu la culture populaire noire américaine. Il vise essentiellement la musique rap et le R&B, qui ne remplit plus son rôle de célébration et de glorification exaltante de la libération des âmes noires. Au contraire, sa pleine intégration dans les circuits économiques et la primauté du format visuel sur le format vernaculaire que celui-ci implique fait que cette culture se résume à une vitrine d'un essentialisme racial. Retenons que dans le temps 1, les cultures qui se développent au sein de l'Atlantique noire remettent en question les attributs de la modernité, que sont l'eurocentrisme, le nationalisme, l'impérialisme, le capitalisme, etc., et invitent à leur déplacement. Tandis que dans le second temps, au contraire, ces mêmes cultures répondent positivement à la raison moderne. L'évolution de la pensée de Gilroy met en exergue une double rupture, dans sa généalogie de l'Atlantique noire. Celle d'abord politique, dans un premier temps de l'Atlantique noire, Gilroy met en lumière des intellectuels comme Du Bois, des écrivains comme Richard Wright, des artistes noirs comme George Clinton et son funk, qui ont contesté les faces sombres de la modernité, à partir d'une double conscience de noirs et de membres également du monde moderne. Dans un second temps de cet Atlantique, le sociologue noir britannique déchante complètement et lance un violent réquisitoire contre une culture populaire noire américaine qui assimile dorénavant la liberté au consumérisme. La rupture est politique, n'est non seulement politique, mais également générationnelle, étant opposée les générations des droits civiques, dignes héritières de la lutte des esclaves pour l'émancipation, à la génération hip-hop, pas celle du début, que Gilroy intègre volontiers dans sa théorie de l'hybridité, mais plutôt celle qui a émergé à partir des années 1990. Si je ne récuse pas entièrement sa vision d'ensemble et sombre de sa fresque sur l'évolution et le devenir de l'idée d'émancipation dans l'Atlantique noire, son analyse reste néanmoins, à mes yeux, limitée en ne tenant pas compte des dilemmes de la culture populaire noire américaine dont je parlerai plus tard. Ceci s'explique par les choix théoriques de Gilroy à partir de Against Race, qui, selon moi, ne se prêtent pas totalement à l'analyse de cette culture. L'ouvrage revendique ouvertement s'inspirer de la philosophie critique allemande, principalement celle des origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Par cette filiation intellectuelle, l'auteur souhaite souligner la centralité dans le projet moderne du fascisme, dont Gilroy rappelle qu'il est une biopolitique dont le versant culturel vise à la glorification de la race. C'est cette même glorification qui, pour Gilroy, se retrouve ou se vérifie dans l'actuelle politique de la race en vigueur dans la culture populaire noire. En clair, il voit actuellement dans cette dernière l'instrumentalisation de discours autrefois rédempteurs du « Black is beautiful » à des fins de promotion d'un essentialisme racial et bien entendu réducteur d'une existence noire. Téméraire, provocante et controversée, cette généalogie réactualisée du fascisme, en intégrant la participation de la culture populaire noire américaine, reste stimulante. Cette idée a le mérite de soulever une question capitale. Des générations racialement mises en minorité et exposées à la violence structurelle de la pensée raciste, est-elle totalement prémunie contre tout conservatisme racial? Mais à côté d'une trame théorique d'influence arétienne, la pensée de Gilroy est habitée par l'esprit de Théodore Adorno sur l'industrie culturelle. Pour Gilroy, une régression s'est produite au moment où la culture populaire noire américaine est passée d'un format vernaculaire à un format visuel, qui a eu pour effet de transformer le récit de soi, rédempteur, en un spectacle de la négrité, qui a abouti à la réification et à la célébration des marqueurs raciaux essentiellement le corps noir. À travers cette mutation, l'identité noire n'est plus l'expression exaltante de l'hybridité qu'elle est censée être. Elle serait au contraire devenue une identité carcérale, relais d'une sainte trinité de la domination que sont le capitalisme néolibéral, le patriarcat et l'hétéronormativité. En se privant de dépasser de telles assignations réductrices et même de les renforcer, l'art africain-américain serait devenu aliénant. Il exhorte à la conformité à un ordre policier qui assigne les Noirs à n'être que des corps-objets dans une sorte de continuité avec l'esclavage négrier, participant à l'aliénation générale et à la soumission au monde réifié de la marchandise. Pour vous donner une illustration, je vais vous montrer un peu quelle idée il a, enfin, je veux dire, à quelles images Paul Gilroy critique actuellement la culture populaire. Est-ce que la régie peut passer un extrait, s'il vous plaît ? C'est un clip de Soulja Boy, Turn My Sweater. Merci. On revient là, en effet, la soumission au monde réifié de la marchandise, etc., qui se cumule. En gros, la culture bling-bling que Gilroy déplore. Dans son analyse, Gilroy épouse parfaitement l'analyse originale développée par Adorno, qui met en garde sur la convergence entre totalitarisme, capitalisme à travers la société de consommation et démocratie libérale. Quant au pouvoir d'uniformisation qu'elle impose à chaque individu qui se fonde sur la sacralité du principe d'identité exclusive. Thèse adornienne pertinente quand on pense à l'influence qu'exercent les industries du divertissement, comme Hollywood, sur l'invitation à se conformer au même modèle culturel. Le capitalisme fordiste qui a contribué à l'émergence d'une société de consommation de masse a en effet produit une esthétique de l'uniformité qu'Adorno n'a pas hésité à qualifier de fasciste et par conséquent contraire à toute visée émancipatrice. Dans la pensée de Gilroy, l'école de Francfort, à travers la voix d'Adorno, met en lumière la quête de liberté et d'autonomie sociale et politique exprimée dans le premier temps de l'Atlantique noire, où les cultures se posaient en critique de la modernité. Et c'est à la lumière de ce même mode de réflexion que Gilroy va jeter l'opprobre sur les dérives actuelles des nouvelles expressions culturelles de l'Atlantique noire. Le problème que me pose l'analyse de Gilroy à travers ses empreintes théoriques est son manque de nuances. Elle donne l'impression que les protagonistes actuels de la culture populaire noire, principalement les rappeurs qui se trouvent dans sa ligne de mire, sont pris dans une conscience heureuse, celle dont parle Marcuse, vous voyez, le fait qu'on puisse tous consommer de la même manière et qui, du coup, atténue le clivage social, de classe, pardon. Donc, pour lui, les rappeurs sont pris dans une sorte de conscience heureuse servie par la société de consommation au sacrifice d'une vision radicale de la liberté. Mais surtout, son analyse a tendance à exagérément accentuer le fossé entre génération des mouvements des droits civiques et celles qui les ont précédés et l'actuelle génération hip-hop, donnant l'impression que cette dernière trahit actuellement les rêves de liberté pour lesquels la première luttait auparavant. Or, la généalogie de l'émancipation noire qui se développe dans la partie états-unienne de l'Atlantique noire a en fait toujours été tiraillée par deux courants qui s'opposent et qui rendent la dichotomie entre génération ancienne et présente moins convaincante qu'elle n'y paraît de prime abord. Si l'un de ces courants proposait effectivement une refondation de l'humanité en se délestant des carcans du nationalisme, du capitalisme, etc., l'autre, certes moins révolutionnaire, envisageait l'émancipation en des termes plus conformistes, en ayant la volonté d'affirmer sa liberté dans les termes proposés au sein de l'ordre social dominant. L'existence de ce dernier courant n'est pas envisagée par Gilroy, comme si finalement elle était inenvisageable. Il faut dire que son mode de pensée ne permet pas de le concevoir, car elle ne pense la résistance-émancipation qu'en opposition au cadre des systèmes de domination, ne laissant aucune possibilité d'action, de marge de manœuvre au sein même de ces derniers. Du coup, Gilroy développe une vision amère et mélancolique concernant l'actuelle politique culturelle de l'Atlantique noire, partant de l'idée qu'elles ont aujourd'hui perdu leur valeur rédemptrice, émancipatrice, de syncrétisme, d'hybridité, etc. Comme si cela était leur unique direction et comme si, sous forme de produit culturel, elles ne présentaient aucun aspect réparateur, aussi invraisemblable soit-il, pour ces fameuses âmes noires. Déjà en 1983, l'anthropologue de la culture, Houston Baker, que Gilroy connaît très bien, mettait en exergue l'ambivalence de l'art africain-américain dans le blues. Depuis le blues, pardon. Cette musique se déclinait en récit intimiste de l'expérience noire, mais aussi en un spectacle proposé à un public blanc, notamment dans les minstrel shows. Ces spectacles ou de bouffonnerie où on voit des comédiens d'abord blancs puis noirs se grimer la peau et faire rire en stéréotypant les manières d'être noirs. Donc, comme je disais, cette musique se déclinait en un récit intimiste de l'expérience noire, mais faisant autant office d'expression libératrice de l'âme noire, louée par Gilroy pour ses vertus thérapeutiques, que de produits culturels formatés pour un certain type de public. Ça, c'est déjà depuis le blues. Une duplicité entre sublimation de la réalité oppressante, comme l'entend Adorno, et intérêts commerciaux, qui constitue au fond une trame commune pour les musiques noires américaines, comme en atteste aussi l'usage des faces A et des faces B dans le rap, l'une étant volontairement conçue pour les radios commerciales, tandis que l'autre permettait aux artistes de se lâcher en quelque sorte, c'est-à-dire d'être beaucoup plus fidèles à leur public de base. Le dilemme dont je vous parlais tout à l'heure. Une lecture trop conforme à une analyse marxiste de la culture se prête en fait assez mal à la compréhension de ces musiques et au relèvement de leur entière complexité, notamment sur la manière dont, à travers elles, s'articule positionnement racial et logique capitaliste. Le désaccord entre vision d'inspiration marxiste de la culture et logique interne à la culture populaire noire apparaît de manière manifeste lorsque l'on se penche sur le cas du label Motown. Il est intéressant de noter que Adorno et Berry Gordy, fondateurs du label Motown en 1960, puisent leur inspiration pour construire leur pensée à partir du même modèle, le Fordisme, mais en font une interprétation bien distincte malgré le fait que tous deux sont animés par le trauma de la domination, l'esclavage et le fascisme. Comme je l'ai rappelé, le philosophe de Francfort considère le capitalisme comme intrinsèquement fasciste et aliénant. Sa raison instrumentale débouchant sur la subordination de l'environnement, y compris les hommes, au règne de la technique, transformant les hommes en moyens, ces derniers n'étant plus considérés comme une fin en soi. Le fordisme constituait alors le dernier avatar du fascisme. Sans pour autant s'attarder sur le fordisme, c'est cette dérive fascisante qu'entrevoit Gilroy dans la musique noire actuelle qui, hier encore, constituait le moyen d'expression d'une hybridité et d'une sensibilité noire au monde. Or, la reprise des méthodes fordistes par la Motown invite à nuancer ses propos. D'une part, l'émergence de ce label souligne que la désacralisation de la musique noire américaine, tant décrié chez les rappeurs de l'Atlantique noire, était déjà amorcé durant la période du mouvement des droits civiques, et même bien avant, comme du temps de l'esclavage. Les rappeurs et chanteurs de R&B ne sont en fait que les héritiers de cette démarche. D'autre part, si l'on suit le raisonnement Adorno-Gilroyen, la production de la musique Motown porterait en elle les germes du fascisme ou d'une esthétique fasciste, et par définition exclurait toute visée émancipatrice. Or, la contribution majeure de ce label dans l'installation durable d'artistes noirs dans les foyers blancs a accompagné, certes malgré elle, le mouvement pour l'émancipation dans les... je fais référence au mouvement des droits civiques, et mériterait un assouplissement de ce type de raisonnement. D'autant plus que la reprise des méthodes fordistes dans le but de convertir l'art noir américain en un produit culturel, certes hérétique pour les passionnés, répondait à une injustice sociale, celle de la dépossession constante des Noirs d'Amérique, de la rétribution de leur travail, privant ces derniers de tout accès au rêve américain. À l'époque de la, il faut savoir qu'à l'époque de Gordy, de Berry Gordy, la musique chantée par des artistes noirs ne parvenait pas à atteindre les sommets des charts, alors que ces mêmes compositions, reprises par des blancs, y parvenaient et assuraient l'aisance financière de ces derniers et de leurs labels. En sécularisant la musique noire, certes Gordy a sacrifié cette sensibilité noire sur l'autel du monde marchand, mais ce sacrifice s'est fait au nom de gains nouveaux en termes de reconnaissance et d'empowerment que le racisme structurel états-unien a systématiquement privé les Noirs. Il faut en effet avoir en tête que la condition nègre est marquée du sceau de la privation, la privation d'une date de naissance. Là, je fais référence à Frederick Douglass, qui est un ancien esclave émancipé qui ne connaissait pas sa date de naissance et qui était pour lui qui structurait sa subjectivité. Donc une privation d'une date de naissance, une privation de sa famille, une privation du fruit de son travail, une privation d'avoir de quelconque propriété, puis au moment de la ségrégation, une privation de s'asseoir dans un restaurant, une privation même d'accéder aux toilettes, etc. Quand bien même ce type de gain ne relève pas d'une émancipation dans le sens le plus noble du terme, et dans une lecture marxiste de libération radicale, elle mériterait la plus grande des attentions et des compréhensions, conformément à la recommandation que Richard Wright, figure centrale de l'ouvrage « Atlantique noire, modernité et double conscience », auquel Gilroy consacre un chapitre entier. Donc, oui, il serait bien de suivre la recommandation de Richard Wright, qui, et là je le cite, invite les générations plus anciennes à toujours témoigner de l'affection à l'égard des derniers-nés qui se détournent effrontément de nos manières de vivre. L'intuition des anciens doit être capable de pressentir que ces braves jeunes qui luttent contre la mort sont également ceux qui font émerger un nouveau monde, parfois même au sacrifice de leur propre mort. Et bien sûr, par mort, ce n'est pas une mort physique, mais une mort sociale. Et, bon, aussi frustrant que ça puisse être, la culture bling-bling, le fait d'être beau, de porter des bijoux, etc., c'était aussi une critique à une invisibilité structurelle qui vise les Noirs, à une dévalorisation de leur être. On devient, ou par le paraître, ou par une valorisation qui passe par les marchandises. Et donc, à l'évitement d'une mort sociale. Donc, en gros, les rappeurs préfèrent une aliénation plus, comment dire, une aliénation, oui, dans le sens capitaliste du terme, mais au prix d'un bien-être que ne procure pas, ou comment on appelle ça, self, un amour, une estime de soi qu'empêche le racisme structurel. J'en ai fini là pour aujourd'hui. Je parlerai de Beyoncé et le féminisme une prochaine fois. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci Franck.